Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de revenir sur l'un des faits divers les plus marquants de l'après-guerre en France, l'affaire Ranucci, du nom de ce jeune homme condamné à mort, exécuté un jour de juillet 1976 à Marseille. Depuis, et cela fait plus de 40 ans maintenant, cette affaire hante la justice française. Car si Christian Ranucci n'a jamais réussi à prouver son innocence dans le meurtre de la petite Marie Dolores, la justice n'a pas non plus prouvé sa culpabilité. Or, il est monté sur l'échafaud. Alors, que s'est-il passé exactement à Marseille le 3 juin 1974, le soir du crime? Comment ont été menées l'enquête et l'instruction? Quelles ont été les pressions politiques dans cette affaire? Quel rôle a joué la pièce matérielle la plus célèbre de cette histoire, le fameux pull-over rouge? Le but de cette émission, comme à l'accoutumée, est de mettre en avant différents éléments de cette histoire qui emporta, en l'occurrence, deux vies. Celle de la victime, Marie Dolores Rambla, puis celle de l'accusé, qui fut à l'époque, tout comme l'affaire Patrick-Henri qu'elle a croisée, un élément important du débat sur l'abolition de la peine de mort. Notre invitée aujourd'hui pour un autre regard sur cette histoire, Geneviève Donadini. Elle était jurée lors du procès de Ranucci, la seule femme du jury d'ailleurs. Et elle est l'auteur du livre intitulé tout simplement « Le procès Ranucci » publié chez l'Harmattan. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
1974, lundi 3 juin. Depuis le début du week-end de la Pentecôte, comme dans une bonne partie de la France, une vague de chaleur s'abat sur Marseille. Balayée par un vent chaud, la ville tourne ralenti. Dans cette douce torpeur, ceux qui n'ont pas pris la route pour la plage ferment les volets pour rester au frais et profitent de ce jour férié. La cité Sainte-Agnès, comme d'autres cités de Marseille, est presque déserte. Certains préparent le repas, d'autres ont pris la route vers les Calanques. Située dans le quartier des Chartreux, elle est constituée d'un ensemble d'immeubles maussades, symptomatiques des années 70, où s'entassent les classes populaires de la ville. Il n'y a ni terrain de jeu, ni terrain de sport. Ici, les enfants s'amusent devant les immeubles ou près des garages. Jean Rambla fait partie des enfants de cette cité. Ce matin-là, il joue avec sa sœur aînée, Marie Dolores, et deux voisins. En fin de matinée, ses deux compagnons rentrent chez eux. Jean et Marie Dolores continuent leur jeu d'enfants. Soudain, un inconnu les interpelle. Il vient d'égarer son chien noir et demande de l'aide aux deux gamins qui acceptent. Jean prend une allée, fait le tour de l'immeuble. Marie Dolores reste avec l'homme. 5 minutes plus tard, Pierre Rambla, le père des deux enfants, retrouve son fils, seul. Après avoir fait le tour du bâtiment pour rechercher le chien noir de l'inconnu, il revient à l'endroit de la rencontre. Mais ni la voiture, ni l'homme, ni la petite fille ne sont là. Le père entame alors les recherches, interpelle les passants, les voisins. Rien, rien, personne n'a vu Marie Dolores. Il prévient la police. À 13h15, il signe sa déposition à l'hôtel de police de la ville qu'on appelle à Marseille l'évêché. Il donne quelques éléments sur sa famille, sur lui, sur la petite Marie Dolores. Elle est âgée de 8 ans, mesure 1m30, plutôt menue, le teint clair et les cheveux longs. Elle est habillée d'un short blanc et d'une chemisette blanche. Lui est un père de famille de 4 enfants, ouvrier boulanger, il vit au premier étage d'un petit appartement au bâtiment C7. Le seul témoin de l'enlèvement est son fils Jean. Il a 6 ans. Il se souvient d'une chose. L'homme a une Simca 1100 grise. Très vite, l'enlèvement de Marie Dolores fait le tour de la cité. Les téléphones résonnent comme les sonnettes des appartements. On vient tous aux nouvelles. Aucun enfant ne jouera ce soir-là dans la cité, ni les jours suivants. Après les voisins, ce sont les journalistes qui frappent aux portes. La nouvelle de la disparition d'un enfant est une affaire à couvrir, bien sûr. Alors, ils débarquent les uns après les autres et ils interrogent les parents. Et même le petit Jean, le tout petit garçon, qui avec ses mots, tout simples, confirme la disparition de sa sœur, partie avec le monsieur, comme il dit.
Le monsieur est arrivé avec une voiture, il m'a appelé avec ma sœur. Après, il a dit que je cherche chez. Après, il a dit que je passe par là-bas. Et ma sœur, elle reste là.
Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là, et ta grande sœur non plus?
Non.
Le lendemain, le 4 juin, la photo de Marie Dolores fait la une des quotidiens et apparaît sur les écrans de télévision. À chaque journal, on entend une nouvelle fois son signalement.
1m30, corpulence mince, yeux marrons, cheveux châtain long non frisés, visage ovale et teint clair, une cicatrice très nette est visible sur l'aile droite du nez.
Qui a enlevé cet enfant? Est-elle encore vivante? Ce 4 juin 1974, le visage de Marie Dolores est dans tous les esprits. Le drame de la famille Rambla devient celui de toute une ville et bientôt de tout un pays. Sur la photo, désormais à la une des journaux, Marie Dolores arbore un large sourire. Elle a le regard vif et joueur, un petit col blanc au-dessus d'un pull. Une photo officielle d'une enfance heureuse et insouciante, comme nous en avons tous, chacun, dans nos albums photos. À l'évêché, les policiers rassemblent peu d'informations à leur disposition. Le jeune frère, Jean, raconte une nouvelle fois l'événement de la veille et réaffirme que la voiture du ravisseur est une Simca 1100 grise. Il connaît bien les voitures, l'enfant. Les policiers vérifient ses connaissances en la matière, effectivement, et lui présentent différentes photographies de voitures. Il reconnaît le modèle Simca 1100. Pourtant, ce témoignage ne convainc pas le commissaire Kuben.
C'est un témoignage évidemment très léger, du point de vue judiciaire, il est sans grande valeur, mais dans la mesure où il est donné d'une manière suffisamment spontanée, il a quand même une valeur d'indication intéressante. L'essentiel est de ne pas contraindre l'enfant à dire des choses qui ne lui viendraient pas directement à l'esprit.
Vous semblez orienter votre enquête vers le fait d'un déséquilibré. Pourquoi ? Quels sont les éléments qui vous permettent de déduire qu'il s'agit d'un enlèvement fait par un déséquilibré ?
Eh bien, pour l'instant, nous n'en sommes encore pas au stade des déductions, nous nous posons des questions, mais il est bien évident que l'enlèvement d'une enfant si jeune peut être conçu et peut être considéré comme l'œuvre d'un déséquilibré. Normalement, lorsque des enlèvements se produisent, et il y en a de temps en temps, avec tentative de viol ou viol, c'est généralement sur des jeunes filles plus âgées.
La journée du 4 juin est une succession de coups de téléphone, de témoignages plus ou moins précis. Les policiers tentent de faire le tri et de cibler les informations les plus importantes. Vers 15h, les gendarmes de Roquevert, non loin de Marseille, reçoivent un coup de téléphone d'un certain Alain Aubert, qui semble pourtant bien éloigné de l'affaire. Mais cet homme les informe que la veille, il a été témoin d'un accident de circulation. À la suite d'un accrochage entre deux voitures, il a pris en charge le responsable de l'accident qui prenait la fuite. L'inconnu a abandonné sa voiture, une Peugeot 304 coupée gris métallisée, une centaine de mètres plus loin, en bordure de la route nationale 8 bis. Son numéro d'immatriculation est le 1369 SG06. Lorsqu'il est arrivé à sa hauteur, l'homme s'est enfui vers les bois. Et c'est à ce moment-là qu'Alain Aubert a remarqué que l'inconnu transportait un paquet assez volumineux. L'information est prise en compte, puis transmise à la gendarmerie de Gréasque, une bourgade proche d'Aix-en-Provence. Au journal du soir, Pierre Rambla, le père de famille, lance un appel au ravisseur devant les caméras de France 3.
Espérons bien que le monsieur qui la prima fille me la ramène vivante, que c'est l'unique chose que je lui demande. Voilà.
En ce moment, il vous écoute peut-être.
Si y a un cœur, comme si un père de famille a des enfants, il voudra bien comment ça coûte un enfant. Alors, en ce moment, je ne demande plus qu'à mon Dieu que me retourne ma fille. Y si se ve pas, si no se pa un pera de familia, si se te un hombre que se li va a terra a me, una filla de pitán, que es que vos fete con una filla de pitán? Vos les en el etat que son les pagan, como vos fete? Alors, prier de vos bona mené ma filla, pas que moi, en ese moment, yo soy malada, y yo soy contenta, vos sabés. Alors, si vos tuez ma filla, vos les fete calca sobre ma filla, alors yo no sé pas que yo faré moi, yo me tuaré moi même aussi.
Pierre Rambla est un immigré espagnol, ouvrier, boulanger, ne roule pas sur l'or, ce qui éloigne l'idée d'un rapt et d'une rançon. Cela fait bientôt 24 heures qu'il n'a pas de nouvelles de sa fille. Il entame sa seconde nuit blanche. Le lendemain, des premiers suspects sont arrêtés, tous propriétaires d'une Simca 1100 grise. Ils sont amenés puis interrogés à l'évêché. Vers 10h du matin, la gendarmerie de Gréasque reçoit un coup de téléphone d'un homme, Vincent Martinez. Il y a deux jours, le 3 juin, il a porté plainte dans cette même gendarmerie à la suite d'un accident de voiture, une nouvelle fois. Ce jour-là, il roule en compagnie de sa petite amie sur la Nationale 96. Ils viennent d'Aix-en-Provence. Au croisement avec la Nationale 8 bis, une voiture, un coupé Peugeot 304, grille, stoppe et les percute. La Peugeot fait un tête-à-queue complet et prend la fuite. Une voiture, celle du couple Aubert que nous évoquions il y a quelques minutes, prend alors en chasse le fuyard et revient peu après avec l'immatriculation. Lors du dépôt de sa plainte, Vincent Martinez indique que l'homme qui a percuté sa voiture semblait être seul à bord. Deux jours plus tard, le 5 juin, il change d'avis. Il pense désormais qu'un enfant pouvait se trouver à l'intérieur du véhicule. Les gendarmes de Gréasque contactent alors les Aubert qui confirment les informations et précisent le lieu. Vers 15h, les gendarmes sont informés de l'identité de l'automobiliste. Il s'agit de Christian Ranucci. Il a 20 ans, il est représentant de commerce et vit à Nice. Ils contactent alors leurs collègues niçois pour qu'ils interrogent le jeune homme. La route nationale 8 bis est une succession de virages. À 1500 mètres du carrefour où a eu lieu l'accident, il y a un chemin de terre qui mène à une champignonnière, celle de M. Guazzone. Le 3 juin, jour de l'enlèvement, M. Guazzone est venu également voir les gendarmes. La voiture d'un jeune homme, une Peugeot 304 coupée grise, était enlisée dans la galerie où il cultive ses champignons. L'homme en question était seul. Sa voiture était endommagée. M. Guazzone n'est pas convaincu par les raisons qui ont amené l'inconnu à bloquer sa voiture au milieu de sa galerie, dans sa propriété. Bizarre. C'est pourquoi il en informe les gendarmes. À la suite de ces témoignages, les gendarmes lancent des recherches aux alentours du lieu de l'accident et de la champignonnière. Après quelques minutes, ils découvrent à l'intérieur de la galerie où était enlisée la voiture, derrière quelques planches, un pull-over rouge. Une autre équipe scrute les bas-côtés, examine les broussailles aux alentours de la route nationale 8 bis. Et vers 15h45, l'un des gendarmes sent quelque chose sous ses pieds. Il écarte le branchage et découvre le corps d'un enfant. Le visage est tuméfié, couvert de sang. On retrouve les pierres ensanglantées qui lui ont brisé le crâne, mais pas le couteau qui l'a égorgé. Le corps est habillé avec les vêtements qui semblent être ceux de la petite Marie Dolores. Pierre Rambla, le père de famille, est alors conduit sur les lieux pour identifier le corps. Les caméras et les photographes sont présents. Quelques minutes après son arrivée, Pierre Rambla réapparaît en larmes, dévasté. C'est bien le corps de Marie Dolores que l'on vient de découvrir. Terrassé, il n'arrive plus à marcher seul. Une image qui marquera longtemps les témoins de la scène, policiers comme journalistes. Le 5 juin, d'autres témoignages sont enregistrés à l'évêché, notamment celui d'un garagiste, Eugène Spinelli. Il dit avoir assisté à l'enlèvement de la petite Marie Dolores. Le 3 juin, vers 10h50, il a vu une fillette prendre place dans une Simca 1100 grise avec un homme d'une trentaine d'années. La fillette serait montée d'elle-même dans la voiture. Pourtant, ce soir-là, le principal suspect, le propriétaire de la Peugeot 304 coupée grise, c'est la conviction, en tout cas, du commissaire Kuben.
Nous avons une piste sérieuse. Le conducteur d'une voiture automobile dont nous possédons le numéro et qui avait à son bord une fillette a abandonné cette voiture et s'est enfui dans la montagne quelques heures après l'enlèvement à Marseille. Nous pensons donc que le ravisseur peut-être, je ne suis pas encore pour cette catégorie, le propriétaire de la voiture en question, et nous avons procédé à l'identification, nous sommes en train de le faire.
Et s'il s'agit d'une voiture volée, ce qui est probable ?
Ce n'est pas tellement probable, parce que nous nous sommes renseignés aussi de ce côté-là, et il n'y a pas eu de déclaration de vol à ma connaissance.
L'homme au coupé 304 Peugeot qui avait été repéré seul par les témoins de l'accident ne l'est plus désormais. Selon le commissaire, Christian Ranucci était avec une fillette. Ranucci est donc arrêté à 18h30 à Nice, chez sa mère, où il vit. Au commissariat, il avoue l'accident, sa présence dans la champignonnière, l'aide de M. Guazzone, mais réfute toute implication dans l'enlèvement. Sa voiture est fouillée, on y trouve un couteau au Pinel, 4 lanières de cuir qui sont en fait un Scooby-Doo, des affaires personnelles et 2 cheveux, l'un est foncé et raide, l'autre de teinte claire bouclé comme un cheveu d'enfant. Après ce premier interrogatoire, Christian Ranucci est amené à Marseille, où il est de nouveau interrogé. 6 juin, Marseille. Depuis la veille et l'annonce de l'arrestation de Christian Ranucci, c'est l'effervescence devant l'hôtel de police. Les journalistes de toute la France sont sur place. Dans les couloirs de l'évêché, chacun cherche des informations sur le suspect, l'avancée de l'enquête, des preuves, des pistes. Les photographes, eux, tentent de shooter celui qu'on présente comme le monstre, le tueur d'enfants. Ranucci est interrogé par le commissaire Alessandra et son adjoint, l'inspecteur divisionnaire Porte. Mais le suspect ne dévie pas de sa première déposition. Il reconnaît l'accident, il reconnaît la fuite. Il était seul dans la voiture, il n'a pas de pull-over rouge. Les enquêteurs convoquent alors les 2 témoins de l'enlèvement, le frère de la victime, Jean, et le garagiste, Eugène Spinelli, pour voir s'ils reconnaissent Ranucci. À 13h, France Inter donne le résultat de cette confrontation.
Rebondissement dans l'affaire de l'assassinat de la petite Maria Dolores enlevée le lundi de Pentecôte à Marseille. Hier soir, après un accident de la route, la police avait arrêté à Nice un jeune homme de 20 ans, Christian Ranucci, qui avait contre lui tout un faisceau de présomptions. Mais Jean Rambla, le petit frère de Maria Dolores, qui vient d'être confronté avec lui, est formel. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Ranucci qui a kidnappé sa sœur. D'ailleurs, comme le confirme notre correspondant Robert Pietri, le commissaire divisionnaire Jacques Cubet, Ranucci a toujours nié depuis son arrestation.
Il nie formellement toute participation à l'enlèvement, bien sûr, et toute responsabilité dans le meurtre de cet enfant. Mais il reconnaît avoir été dans la voiture au moment de l'accident. Donc, par conséquent, il y a un certain nombre d'invraisemblances dont, à mon sens, il lui sera difficile de s'évader.
Est-ce qu'il nie également avoir eu une fillette à bord de sa voiture ?
Je crois qu'il le nie, effectivement, mais des témoins affirment que l'enfant se trouvait dans la voiture et nous allons recevoir leur déclaration par procès-verbal.
Les témoins dont parle le commissaire, c'est le couple Aubert. Oui, rappelez-vous, ce sont eux qui ont suivi Ranucci après l'accident. Ce sont eux qui ont noté son immatriculation et l'ont vu s'enfuir dans les bois. Ils arrivent au début de l'après-midi au commissariat. Même principe que pour les témoins du matin, Ranucci l'aurait présenté avec d'autres jeunes hommes. Ils ne le reconnaissent pas. Puis, une heure plus tard, il est de nouveau présenté au couple. Et là, l'homme et la femme sont formels. C'est bien Christian Ranucci qui a pris la fuite dans les bois après l'accident. Bingo, les enquêteurs ont leur coupable, ils ne le lâcheront plus. À la suite de cette reconnaissance, le couple est une nouvelle fois interrogé, séparément cette fois, sur l'événement du 3 juin. De nouveaux détails apparaissent dans leur déposition. Le paquet volumineux que transportait l'homme est devenu un enfant, portant un short ou une culotte blanche. Seul M. Aubert est sorti de la voiture. Pourtant, sa femme a entendu la voix fluette d'un enfant. Après ces dépositions, Christian Ranucci est une nouvelle fois questionné. À 19h, les inspecteurs annoncent l'épilogue de cette journée.
Cette malheureuse et douloureuse affaire vient de connaître son épilogue, tout au moins son épilogue dans la phase des recherches, puisque l'auteur présumé vient de passer des aveux. Je pense que le mieux, c'est que le commissaire Alessandra, mon collègue de la Sûreté urbaine, et l'inspecteur divisionnaire Porte, qui ont mené entièrement l'enquête depuis le début, puissent vous dire dans quelles conditions cette phase ultime a été atteinte.
Il s'est trouvé que dans la matinée, nous avons pu identifier et entendre deux automobilistes, deux personnes qui venaient spécialement de Toulon, et qui ont pu apporter leur témoignage, au terme duquel il s'avérait que ces personnes avaient aperçu le mis en cause, n'est-ce pas, quitter son véhicule et s'enfuir dans les collines, entraînant avec lui une fillette, n'est-ce pas. Donc ce témoignage était extrêmement important, nous avons recueilli ce témoignage, nous avons confronté les intéressés avec le mis en cause, et après 4 heures d'interrogatoire, il a finalement consenti à avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur du meurtre de la petite fille.
Rectifions 2 points après cette déclaration. Christian Ranucci n'a pas avoué après 4 heures d'interrogatoire, mais après 19 heures de garde à vue. Jean Rambla n'est pas le seul à n'avoir pas reconnu Christian Ranucci comme l'homme ayant enlevé sa sœur. Le garagiste témoin d'enlèvement non plus. Pourtant, Christian Ranucci avoue. Dans sa déposition, il donne l'endroit où il aurait jeté son couteau. L'ustensile est retrouvé. Des traces de sang sont présentes sur la lame. Christian Ranucci est ensuite présenté à la juge Di Marino. Il réitère ses aveux. On l'emmène en prison, c'est sa première nuit au Baumettes, il lui en reste 783. Trois semaines après les faits, une reconstitution est organisée sur les lieux du crime. Christian Ranucci est présent avec son avocat, Maître Le Forçonnet. Jeune, inexpérimenté, il a accepté de défendre Ranucci. Il sera accompagné un peu plus tard dans cette tâche par Maître Lombard. Lors de cette reconstitution, Christian Ranucci ne se souvient plus de rien. Lorsqu'on lui demande de montrer comment il a assassiné Marie Dolores, il s'effondre devant la poupée de chiffon qu'on lui présente. 6 mois après, à l'occasion du témoignage récapitulatif, Christian Ranucci revient sur ses aveux devant la juge d'instruction. Là, il indique qu'il a été forcé par les policiers. Il ne se souvient pas avoir enlevé quiconque, ni d'avoir frappé mortellement quelqu'un. À la fin de l'instruction de la juge, les questions restent sans réponse. Pourquoi Christian Ranucci a-t-il repris sa vie après l'accident comme si rien ne s'était passé? Pourquoi a-t-il sans crainte demandé de l'aide lorsque sa voiture est enlisée près du lieu du crime? Qui est le propriétaire du pullover rouge? Qui est l'homme de la Simca 1100 qui était au cœur des premières heures de recherche?
Tu as volé mon enfant, versé le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera, j'aurai ta peau, tu périras. Tu m'as retiré du cœur et la pitié et la peur. Tu n'as plus besoin d'avocat. Tu as volé mon enfant, versé le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera. J'aurai ta peau, tu périras. Les philosophes, les imbéciles, parce que ton père était débile, te pardonneront, mais pas moi. J'aurai ta tête en haut d'un mât. Tu as tué l'enfant d'un amour. J'aurai ta mort. Je suis pour.
C'est le maître. Mardi 9 mars 1976 que s'ouvre le procès de Christian Ranucci, l'auteur présumé de l'enlèvement et de l'assassinat de Marie-Dolores Rambla. Depuis 7 heures du matin, une foule s'est amassée devant le palais de justice d'Aix-en-Provence. Sur le banc des avocats, on trouve le jeune Gilbert Collard qui vient de récupérer le dossier de la famille Rambla au titre des parties civiles, remplaçant un collègue au pied levé. Sur le banc d'en face, c'est Maître Le Forcené et Maître Lombard qui sont en charge de la défense de Christian Ranucci. À 9h, le président Antonin ouvre l'audience. Après la traditionnelle biographie de l'accusé, révélant une enfance mouvementée, sans repère masculin, élevée par une mère omniprésente et sortant à peine de ses jupons, le président l'interroge sur sa journée du 3 juin 1974, le jour du drame. Et comme devant la juge d'instruction, Christian Ranucci nie en bloc et va plus loin en accusant les inspecteurs de l'avoir torturé. 19h, interrogatoire, dit-il. Les propos de l'accusé sont confus et ne servent pas à sa défense. Christian Ranucci parle d'une soirée bien arrosée la veille, d'un état de fatigue important, puis de trous de mémoire. Pourquoi a-t-il pris la fuite après l'accident? Pour ne pas perdre son permis, indispensable pour son travail? Que s'est-il passé après? Il a repris la route, puis s'est arrêté sur le bas-côté. Il s'évanouit ensuite à cause du choc et de la fatigue. Enfin, il ne se souvient pas avoir été poursuivi, ni comment il est arrivé dans la champignonnière. Les journalistes découvrent alors un homme de 21 ans, sourd de lui, réfutant toutes les affirmations du président. Ils ont du mal à croire à cette cuite, surtout qu'il reste toujours ce couteau et ce pantalon retrouvés avec des taches de sang, et puis ses aveux à la juge d'instruction et au médecin. Mauvaise posture. Le procès se poursuit, les témoins se succèdent à la barre, jusqu'au témoignage des époux Aubert. C'est autour de leur déposition que se fonde toute l'accusation contre Christian Ranucci. Depuis le début de l'affaire, ils sont l'objet de toutes les attentions et n'hésitent pas à prendre la parole devant les journalistes, comme ce fut le cas au micro de France Inter le jour de la découverte du corps de la petite Rambla. Écoutez Aline Aubert.
Mon mari a vu qu'il portait un short blanc. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous pensions même qu'il s'agissait d'un enfant plus jeune. Parce que la façon dont il a happé de la porte arrière et l'a emporté dans ses bras, on avait l'impression que c'était un enfant jeune. Ce qui nous a fait un peu hésiter. Mais enfin, on a dit qu'il vaut mieux téléphoner pour rien et... Malheureusement, il s'est avéré que...
Et ils ont disparu dans les bois.
Oui, cette histoire m'a vraiment bouleversée. Parce que mon mari voulait vraiment poursuivre cet homme dans les bois. C'est un garçon jeune et me suis totalement opposée.
Près de 2 ans après les faits, les propos du couple Aubert n'ont pas évolué. À la suite de leur témoignage, Maître Lombard décortique avec précision chacun de leurs propos. Il rappelle aux jurés leur première déclaration. L'homme s'était enfui avec un paquet volumineux et non pas un enfant. La précision des vêtements est intervenue après le signalement de Marie-Dolores dans la presse. Et puis un autre point cloche. Au micro de France Inter, Aline Aubert indique que l'enfant a été happé de la porte arrière de la voiture. Pourtant, la voiture de Christian Ranucci est un coupé Peugeot. Elle n'a pas de porte arrière. Maître Lombard poursuit sa démonstration et pointe les différentes variations dans les déclarations du couple. La voix fluette entendue par la femme alors qu'elle est restée à l'intérieur de la voiture. L'inconnu qui serait sorti de la porte conducteur pourtant bloquée et inutilisable à la suite de l'accident. Une seule chose demeure dans ces différentes déclarations. Le couple n'a entendu aucun cri. Pourtant, quelle serait la réaction d'un enfant seul avec un inconnu à la suite d'un accident, tiré d'une voiture, pourchassé puis transporté en courant dans un bois? Le silence? Non, certainement pas. Alors ils n'ont rien entendu. Peu avant 20h, le président de la cour d'assises d'Aix-en-Provence suspend l'audience.
France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Le lendemain, les avocats de la défense pensent avoir une carte qui peut changer la donne. Ils appellent à la barre Jeannine Mattei. Madame Mattei habite la cité des Tilleuls, à Saint-Jérôme, non loin de la cité Sainte-Agnès. Deux jours avant l'enlèvement de Marie-Dolores Rambla, elle est témoin d'un drôle de manège. Un homme essaie de faire entrer de force un gamin de la cité dans sa voiture. Les cris de l'enfant obligent l'inconnu à prendre la fuite à bord de sa Simca 1100 grise. L'homme a un pull-over rouge et un pantalon vert foncé. Après cet événement, Madame Mattei apprend que la veille, l'homme était déjà dans la cité. Il a interpellé sa fille et l'une de ses amies, prétextant la perte de son chien noir. Lorsqu'elle apprend la disparition de Marie-Dolores Rambla, Madame Mattei se rend au commissariat pour déposer une plainte. Le jour de l'arrestation de Ranucci, on la rappelle pour confronter le suspect à sa fille. Or, elle ne le reconnaît pas. Ranucci n'est pas l'homme au pull vert rouge qui a abordé sa fille. Avec ce nouveau témoignage, les avocats pensent briser la certitude de la culpabilité qui entoure leur client. Mais la justice n'est pas seulement une affaire de faits, elle est aussi une scène où chacun joue un rôle devant les jurés. Et le plus honnête des témoins peut parfois être le pire agent de la vérité. Ce fut le cas ce jour-là. Madame Mattei, stressée sans doute par la situation et l'ambiance qui règne autour de ce procès, semble réciter une partition qu'on lui aurait dictée. Maître Collard s'est fait alors un plaisir de remettre en cause ses propos. Son fils est en prison au Baumettes, comme Ranucci. Alors pour l'avocat, ce témoignage n'est pas crédible. Pourtant, Madame Mattei n'est pas la seule à avoir remarqué cet homme au pull vert rouge dans la cité. Ensuite, c'est un certain Paul Martel qui est appelé à la barre. Lui, il est gardien dans un ensemble d'immeubles à Marseille. Le 1er juin 1974, il a pris en chasse un homme qui venait de s'adonner à des attouchements sur deux jeunes filles. Cet homme avait un pull-over rouge et une Simca 1100 grise. Encore. Le lendemain, il témoigne à l'évêché avec les deux filles et le père des enfants. On le rappelle le 6 juin pour le confronter à Ranucci. Or, il ne le reconnaît pas, lui non plus. 8 ans plus tard, il est toujours aussi affirmatif au micro d'un journaliste de TF1. L'homme au pull-over rouge n'est pas Ranucci.
Vous savez qu'on a retrouvé sur les lieux du crime de la petite Maria Dolores un pull-over rouge.
Oui, j'ai suivi l'affaire.
C'était donc le même pull-over, à votre avis, que celui que portait l'homme que vous avez vu?
Le pull-over qu'ils m'ont présenté, c'est le pull-over exact qui était sur ce type-là que j'ai vu. Le pull-over rouge.
Comment expliquez-vous ça, alors?
Ma foi, ça me paraît bizarre.
Ça ne vous a pas semblé curieux qu'on ne prenne pas en considération votre témoignage?
Ça m'a paru un peu... Ça m'a paru un peu louche, moi. D'après mes idées à moi, j'ai dit, ma foi, ils ont l'air de vouloir trouver un coupable, quoi.
L'ombre de l'inconnu au pull vert rouge plane sur le procès, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais les témoignages de la défense n'ont pas obtenu l'effet escompté. Rien ne semble vouloir innocenter Ranucci du crime de Marie-Dolores Rambla. Désormais, c'est la hauteur de la sentence qui se joue. Christian Ranucci risque la mort, car en France, alors que tant de voisins européens se sont débarrassés de la peine capitale, elle est toujours de mise et elle plaît encore au cœur des années 70. Tout se jouera lors des plaidoiries. Gilbert Collard, avocat de la partie civile, est le premier à prendre la parole. Il est jeune, à peine plus vieux que l'accusé. C'est l'une de ses premières plaidoiries et elle est magistrale, selon les journalistes sur place.
Trop de présomptions, trop de preuves, trop de témoignages, trop d'aveux. Vous avez avoué devant la police, Ranucci. Vous avez avoué devant le juge d'instruction. Vous avez avoué devant les experts psychiatres. Vous avez 20 ans au moment des faits. Votre âge m'émeut, c'est presque le mien. Ranucci, je ne supporte pas de suivre avec vous ce terrible chemin. Je voudrais que vous me disiez que vous avez fait cela, et puis que nous essayions ensemble de comprendre comment est morte une enfant de 8 ans. Mais ne restez pas ainsi, Ranucci, je vous en conjure. Implorez votre pardon, dites quelque chose, parlez.
Puis il conclut par cette phrase.
Je veux que Ranucci se souvienne de son crime, de la mort de Marie Dolores, forme éternelle de l'innocence. Je veux pour lui un chagrin et un repentir qui ne finissent jamais.
En quelques mots, sans le dire explicitement, car sa fonction d'avocat de la partie civile ne le lui permet pas, il indique quand même à la cour le chemin à suivre concernant l'accusé. Or, ce chemin peut rencontrer l'échafaud. La peine de mort, parlons-en. C'est un clivage au sein de la société française, un clivage puissant qui revient régulièrement sur le devant de la scène au fil de l'actualité. C'est le cas lors du procès de Christian Ranucci, avec une circonstance terriblement aggravante pour lui. 6 semaines avant l'ouverture du procès, en effet, un autre enfant, Philippe Bertrand, est enlevé à la sortie de l'école. Son corps est retrouvé le 17 février 1976. Le lendemain, aux 20h, à 3 reprises, le présentateur du journal, Roger Giquel, lance « La France a peur ». Le coupable s'appelle Patrick Henry, il a 23 ans. L'affaire n'a aucun rapport avec Christian Ranucci, si ce n'est la mort d'un enfant, enjeu énorme, mais dans des circonstances totalement différentes de l'affaire Ranucci. Seulement voilà. La France cède à la tentation de la vengeance, celle de la mort immédiate, sans concession, sans explication, la loi du talion. Dans les colonnes de nos journaux, sur les plateaux de télévision, on réclame la peine de mort pour les tueurs d'enfants. Certains feront même des chansons à succès. Non, Christian Ranucci n'est pas Patrick Henry, mais comme lui, il est accusé du pire des crimes, l'infanticide. Devant le palais de justice d'Aix-en-Provence, des inconnus venus de toute la France réclament la tête de l'assassin présumé de Marie Dolores. Et l'avocat général répond positivement à cette demande de l'opinion. À la fin de son réquisitoire, il réclame la peine maximale, la peine de mort. Maître Lombard, maître le forcené, n'y pourront rien. Chacun dans leur style, ils tentent, lors de leur plaidoirie, d'instiller le doute dans l'esprit des jurés, de briser les certitudes, jusqu'à jouer une double carte, celle de l'innocence comme celle de l'irresponsabilité. Maître Lombard rappelle l'existence de l'homme au pullover rouge, de la Simca 1100, des différents témoins qui ne l'ont pas reconnu. Puis il conclut sa plaidoirie par ces mots de Victor Hugo. Le sang se lave avec les larmes, non avec le sang. Tant que la peine de mort existera, la nuit règnera dans la cour d'assises. Ce jour-là, le 10 mars 1976, la nuit tombe, à 20h15, Christian Ranucci est condamné à la peine de mort. À la sortie de l'audience, Maître Lombard n'abdique pas.
Aucun commentaire à faire. Je vais simplement conseiller à mon client d'user du voie de recours que la loi donne aux condamnés dans pareilles circonstances, c'est-à-dire d'interjeter un pourvoi auprès de la Cour de cassation.
Enfin, ce verdict vous déçoit beaucoup.
Je n'ai pas à commenter un verdict rendu par la justice de mon pays. Je suis naturellement déçu, mais je vais essayer d'user, dans l'intérêt de ce jeune homme, de toutes les ressources que me donne la loi.
Mais le 17 juin, la cassation est rejetée. Le seul espoir de Ranucci, le dernier, c'est la grâce présidentielle. Valéry Giscard d'Estaing refuse de l'accorder. Il n'y a plus de recours, on prépare la guillotine. Le 28 juillet 1976, dans sa cellule, Christian Ranucci dort comme d'habitude face au mur à l'abri de la lumière électrique. Vers 4h du matin, on le réveille, on lui passe les menottes, il sursaute, crie, s'insurge, puis comprend en voyant la colonne d'invités présents. Il reconnaît ses avocats, le président de la cour d'assises, le contrôleur général Cubaine, le juge d'instruction Pierre Michel qui a succédé à mademoiselle Di Marino. Lors de la procession, avant l'exécution, les avocats s'entretiennent avec le condamné. Christian Ranucci réaffirme son innocence. Eux lui promettent sa réhabilitation. Mais c'est à sa mort qu'il faut maintenant le préparer. Ils essayent de le rassurer, mais Christian Ranucci refuse de gagner du temps. Il repousse ses habits préparés pour l'occasion, décline la messe, puis repousse le verre d'alcool. On lui coupe les cheveux pour lui dégager la nuque. Puis on le place sur la planche, le bourreau appuie sur un bouton. Et c'est la mort, et c'est la peine. Il est 4h13, la guillotine vient de faire son œuvre. Pendant les jours qui suivent, le débat sur la peine de mort reprend avec vigueur. Jean Le Canuet, ministre de la Justice de Valéry Giscard d'Estaing, exprime son soutien au président qui a laissé la justice suivre son cours, comme il dit. 5 ans plus tard, en 1981, la gauche au pouvoir abolit la peine de mort. Robert Badinter, nouveau garde des Sceaux et porteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, était l'avocat de Patrick Henry. Lors de son procès, il avait convaincu les jurés de ne pas le condamner à la peine capitale. Aujourd'hui, la peine de mort n'est plus en débat en France, mais un doute entoure toujours la culpabilité de Christian Ranucci dans le meurtre de la jeune Marie Dolores Rambla. Qui était cet homme au pullover rouge? Était-il présent ce 3 juin 1974 aux abords de la route nationale 8 bis? A-t-il rencontré Christian Ranucci?
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Ranucci avec notre invitée Geneviève Donadini. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Geneviève Donadini. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation parce qu'elle est précieuse. En 1976, lors du procès Ranucci, vous étiez l'une des 9 jurés, la seule femme d'ailleurs. Et rare est la parole des jurés. En effet, jusqu'à leur mort, et on va le rappeler, les jurés doivent garder le secret des délibérations. Dans votre livre, intitulé Le procès de Ranucci, publié chez L'Harmattan, vous ne dites donc rien du secret de ces délibérations, même si les lecteurs pourront se faire une idée sur la teneur de votre choix. Mais enfin, vous ne dites rien de ce choix, mais vous racontez tout le contexte, le cadre de ce procès, la décision de condamner une personne à mort, et ensuite de porter le poids de ce choix, et de le porter seul, forcément. Alors, avant de revenir sur le procès, que saviez-vous de l'affaire Marie-Dolores Rambla? Comment l'avez-vous suivi? Bon, il a répondu à la question, par la presse, certes, mais est-ce que vous êtes senti influencé par ce que disait la presse?
Mais disons qu'on est toujours influencé par ce que dit la presse. Lorsqu'on apprend cet enlèvement, c'est d'abord de l'inquiétude, de la stupeur, parce qu'on est maman et qu'on se dit que ça peut aussi vous arriver. Ensuite, lorsque le lendemain, il y a la découverte du corps de cette petite fille martyrisée, alors là, c'est bien sûr, c'est l'horreur. C'est l'horreur de voir ce qui s'est passé et l'arrestation d'un coupable éventuel. Bien sûr, on se dit, eh bien, il faut qu'il soit puni.
Et vous vous retrouvez au cœur de cette histoire, puisque vous êtes juré, tiré au sort. Comment ça se passait à l'époque ?
Eh bien, à l'époque, c'était le maire de la commune qui fournissait à la justice un certain nombre de noms, suivant l'importance de la commune. Tous ces noms étaient transmis donc au tribunal, donc ça faisait des centaines de noms sur le département des Bouches-du-Rhône. Et parmi ces centaines de noms, le ministère de la Justice tirait au sort 30 personnes susceptibles donc de faire partie du jury d'assises. Et tous les matins, il y en avait 9 qui étaient à nouveau tirés au sort pour participer au procès du jour.
Ah, et il en restait 9 et vous en faisiez partie. Comment vous avez réagi ?
Eh bien, si vous voulez, lorsque je suis allée à cette session d'assises, j'y suis allée très confiante. Là, le gendarme qui m'avait convoqué pour me signifier donc ma nomination à ce jury m'avait dit « il y a un procès... important, un terrible procès qui aura lieu pendant cette session, c'est le procès Ranucci. Mais soyez tranquille, vous êtes jeune, vous êtes une femme, mère de famille, vous serez récusée, forcément. Donc lorsque je suis arrivée le matin du procès de Christian Ranucci, j'étais tout à fait persuadée d'être récusée et de ne pas avoir à participer à ce jury.
Et vous n'êtes pas récusée. La preuve.
Et comment
vous réagissez quand vous n'êtes pas récusé ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne, comme vous en l'occurrence à ce moment-là, quand on lui dit, et il n'y a plus d'échappatoire, hein, voilà, vous allez prendre une décision, et qui peut aller jusqu'à la mort, vu la nature du crime ?
Eh bien, je suis un petit peu, alors je veux dire abasourdi, mais le terme n'est pas assez fort. Je suis absolument anéanti et pas du tout préparé à prendre une telle décision.
Bien sûr, qui peut l'être d'ailleurs ? Hasard du calendrier, mais hasard qui a joué un rôle sur le déroulement du procès. 4 jours avant le début des audiences, Patrick Henry, 23 ans à l'époque, est arrêté pour l'enlèvement et le meurtre du petit Philippe Bertrand. Et on sait quelles conséquences ça a eu, la concomitance de ces deux affaires. Quelle est l'atmosphère à votre arrivée au palais de justice à Aix-en-Provence ? D'ailleurs, je précise que vous nous parlez des studios de France Bleu Provence, à Aix, hein, précisément, là en ce moment.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, lorsque je suis arrivée donc au tribunal le matin du procès, j'ai été extrêmement surprise par la foule qui se pressait devant le palais de justice. Le palais de justice était lui aussi envahi, si bien que j'ai dû faire appel à un policier pour lui dire « mais aidez-moi à rentrer, car moi je dois rentrer ». Donc il m'a frayé un chemin pour que je pénètre jusqu'à l'intérieur de la salle du tribunal. Il y avait tout autour, chaque fois que l'on avançait, des gens qui, ayant compris que vous faisiez partie du jury, criaient « la mort, la mort, la mort ». Il y avait des tags énormes sur les murs du palais de justice où il était marqué « la mort ». Et ce mot, la mort, on l'a entendu pendant les délibérations, on l'a entendu quand on arrivait, on l'a entendu, tout le long de ce procès.
Et le soir, en rentrant à la maison, après la première journée d'audience sur laquelle on va revenir, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que vous avez dit à votre époux, par exemple ?
Eh bien, je n'ai rien dit.
Pourquoi ?
Je n'ai rien dit parce que j'étais complètement, j'étais abasourdie. Je ne pouvais pas en parler.
Alors, pouvez-vous nous parler maintenant de l'entrée de Christian Ranucci? Quelle a été votre première impression en le voyant et en vous posant cette question? J'ai en tête, comme beaucoup d'ailleurs, la photo de Christian Ranucci avec sa chemise blanche rayée, ses menottes et les mains en arrière, évidemment l'air hagard, apeuré.
Oui, moi j'avais cette image aussi en tête, hein, l'image de ce jeune garçon, la tête baissée, les cheveux bruns. Bon. Et lorsqu'il est arrivé dans la salle, c'était une autre personne. D'abord, il avait maigri, les cheveux étaient coupés, il avait un air arrogant, méprisant, un air hautain. Il regardait ceux qui allaient le juger d'un air de dire « mais vous allez me juger, mais vous n'avez pas le droit de me juger, vous savez pas ce que j'ai fait. »
Parce que je suis innocent, c'est ça qu'il voulait dire.
Parce que je suis innocent.
Et vous, qu'est-ce que vous ressentez? Vous voyez ce garçon à travers ses yeux, qu'est-ce que vous voyez de l'innocence, de l'injustice ou alors le questionnement qui va être le vôtre, essayer de savoir s'il est coupable ou innocent?
Ben, disons que moi, personnellement, je pense qu'il est coupable. Mais tout au long de ce procès, il faut quand même rappeler que ce procès n'a duré que 2 jours. Donc ça a été une avalanche d'informations souvent contradictoires.
Pardon, en deux jours, on a condamné un homme à mort. En 2 jours.
Tout à fait, en 2 jours. Donc toutes ces informations qui vous arrivent, des experts que, bon, plus ou moins vous comprenez, vous ne comprenez pas. Moi, personnellement, je n'étais jamais rentrée dans un tribunal, je n'avais jamais eu affaire à la justice. Donc vous ne savez pas très bien où vous êtes. Et puis vous devez juger sur ce que vous entendez, vous n'avez pas accès à l'écrit, vous n'avez pas accès au dossier. Donc vous entendez les plaidoiries, vous entendez les experts, vous entendez les témoins. Donc tout cela en 2 jours, ça s'accumule et je peux vous dire que ben, votre avis, il peut changer toutes les 5 minutes suivant qui vous entendez.
Bien sûr, bien sûr. Dans votre livre, on sent l'impact terrible que peuvent avoir également les pièces à conviction, parfois terribles, hein, comme celle du corps de Marie Dolores Rambla à photo, puis les pièces à conviction, alors des objets, hein, la chaussure de la petite fille, par exemple, qu'on présente à la barre, dans le prétoire. Quand on tient entre ses mains ces objets du crime, ces reliques de la vie de la disparue, qu'est-ce qu'on ressent?
Mais vous savez, quand vous avez entre les mains la photo d'une petite fille complètement massacrée, que vous, personnellement, vous en avez une de cet âge-là.
Oui.
Et que le président nous avait dit, il faut rester impassible. Mais comment rester impassible? Quand vous avez dans les mains une petite chaussure avec des taches noirâtres, et qu'on sait bien que ce sont des taches de sang, comment rester impassible? Et comment avoir le couteau entre les mains? J'ai eu l'impression que ce couteau, il me brûlait les doigts. Je l'ai vite passé à le juré qui était à côté de moi. Je ne pouvais pas le tenir dans les mains.
On arrive au verdict. Pardon, je vais un peu vite, mais le temps va vite aussi, il est bientôt 16h.
Oui.
On arrive au jour du verdict. Alors, je sais que vous ne pouvez pas lever le secret des délibérations, c'est pas ce que je vais tenter de faire, rassurez-vous.
Mais qu'est-ce que... Non, je ne le ferai pas de toute façon.
Vous ne le feriez pas, c'est évidemment. Qu'est-ce que vous ressentez là au moment du verdict quand la décision est prise? Voilà, elle est prise, on va l'annoncer, cette décision, c'est la plus grave qui soit. Qu'est-ce que vous ressentez là, au moment de revenir dans la cour?
Je pense que je suis effrayée. D'ailleurs, je me permets de rappeler ce qu'a écrit Maître Le Forcené quand donc nos regards se sont croisés et il a écrit « J'ai vu le regard horrifié de la dame jurée. Je ne saurais jamais si elle était horrifiée parce qu'elle avait fait ou parce qu'elle n'avait pas pu empêcher. »
Question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, évidemment.
Non.
Alors, ce procès se termine de la façon dont on sait. Les jurés sont plongés du jour au lendemain dans un drame. Et puis après, ils reviennent à la vie quotidienne. Comment on revient à la vie quotidienne après cela? Combien de temps faut-il pour cicatriser? Parce que ça a été, évidemment, c'était une épreuve pour vous.
Je pense qu'on ne cicatrisera jamais. Moi, j'ai mis 40 ans quand même pour m'exprimer, pour essayer de partager ce que j'avais vécu lors de ce procès. Mais je crois que c'est une cicatrice qui reste.
Et le fait d'avoir écrit un livre est une sorte de thérapie, pour le coup ?
Bon, oui, le mot est fort, oui, mais... c'est une... oui, c'est... Bon, oui, oui, c'est peut-être pas une thérapie, mais oui, quand même, ça m'a permis de dire ce que j'avais vécu, ce que je n'en avais parlé à absolument personne. Même ma famille ne connaissait pas, et ils ont découvert, disons, un moment important de ma vie.
Ensuite, il y avait la grâce possible, elle n'a pas été accordée par Valérie Giscard d'Estaing, dont on va écouter ensemble la réaction le 21 novembre 1978 lors d'une conférence de presse. Il répondait à la question de l'abolition de la peine de mort, et on sait à quel point l'affaire Ranucci a été un élément important du débat sur la future abolition de la peine de mort.
Bien d'abord que je n'ai pas une formation juridique, une formation scientifique, mais que j'ai toujours eu le plus grand respect des décisions de justice. Et que je suis à la fois étonné et, je vous dirais, révélant mon fond intime, choqué de voir la désinvolture avec laquelle, à partir de quelques informations, on traite des décisions de justice. Les jurés qui prononcent des condamnations, surtout lorsque l'instruction a été très longue, après de très longues démonstrations des avocats, des questions de toute nature, bon, ces jurés prononcent leur condamnation en conscience. Et ce n'est pas parce qu'ensuite quelqu'un donne un élément ou une information qu'il faut imaginer que toute cette procédure de décision et de défense était faussée et qu'il y avait erreur judiciaire. On posait tout à l'heure la question de la sécurité des Français. Il y a une situation objective qui est que le nombre des agressions violentes a augmenté assez sensiblement au cours des dernières années. Et que donc la société française ressent, comme elle le faisait plus qu'elle ne le faisait auparavant, le problème de sa sécurité. Il ne s'agit donc pas de traiter un problème qui soit d'application immédiate, puisqu'il n'y en a pas. Et je considère que la démarche raisonnable à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que la société française atteigne un degré de sécurité telle qu'elle puisse, en profondeur et avec l'accord d'une large partie de l'opinion publique, décider la suppression de la peine de mort.
Ce à quoi on aurait pu répondre au président Valéry Giscard d'Estaing, une volonté politique peut permettre de le faire, c'est ce qui s'est passé 3 ans après, avec l'abolition de la peine de mort le 17 septembre 1981. Est-ce que ce vote qui a aboli la peine de mort en France, Madame Donadini, vous a enlevé un poids ?
Ah oui. Peut-être pas à moi, mais j'ai pensé à tous ceux qui auraient à juger, et ça a été vraiment pour moi un cri de joie.
Un mot sur les avocats. On n'a pas parlé d'eux. C'est important de savoir comment vous avez ressenti leur travail pendant ces 2 jours d'audience, Maître Le Forcenet et Lombard.
Mais vous savez, les avocats, ils parlent bien. Ils ont essayé de sauver leur jeune client. Ils ont essayé d'expliquer. Mais si vous voulez, l'instruction avait été quand même rapide. Il y avait tellement d'éléments contradictoires dans ce procès. Vous savez, on parlait du pull-over rouge. Mais à un moment, on nous a parlé d'un pull-over qui était vert.
Oui.
Donc tous ces éléments nouveaux qui auraient dû être plus explicités, en fait, ne l'ont pas été.
Ça vous a choqué, évidemment. Vous avez posé des questions sur le fonctionnement de la justice, peut-être.
Tout à fait.
Certainement.
Oui, tout à fait. Oui.
Est-ce que vous avez lu le livre si célèbre, Le pull-over rouge de Gilles Pérot, livre absolument remarquable, soit dit au passage.
Bien sûr.
Vous l'avez lu. Qu'est-ce que vous en avez tiré?
Ben, écoutez, ce livre déjà, qui a paru juste 2 ans après le procès, est un livre qui m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée parce que ça m'a fait revivre, et c'était quand même assez récent, donc ce procès. Et en même temps, cela a mis en exergue, en valeur, tous les non-dits lors du procès. J'ai appris certaines choses que j'aurais dû apprendre au moment du procès.
Ah, laquelle par exemple ? Juste une chose, après on se quittera, mais quel élément vous auriez dû apprendre avant le procès ?
Je ne sais pas, mais par exemple... l'importance de ce pull-over.
Bien sûr. D'où le titre
du livre. Parce que le pull ouvert, ouais, il est resté comme ça, posé sur la table. Mmh. Il n'a pas circulé comme ont circulé les autres éléments.
Mmh. Je comprends. Mmh. Geneviève Delandini, merci infiniment de votre témoignage. Et je rappelle le titre de votre livre. Titre tout simple. D'ailleurs, il ne faut pas faire compliqué. Le procès de Ranucci. Voilà, publié chez l'Harmattan. Merci infiniment. Au revoir, madame.
Merci beaucoup de votre...
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Ranucci, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Céline Guéribi qui était à la technique aujourd'hui.